on change de méthode, mais le gouvernement change-t-il d'ambition? Jean Castex a détendu le calendrier social hier après avoir reçu l'ensemble des partenaires sociaux pour en parler ce matin. Le secrétaire général de la CGT, bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Je vous vois sourire quand je prononce le mot détendu. C'est bien ce qu'il a fait?
On n'était pas crispés, on n'est jamais crispés. Nous, on veut des choses concrètes. Et au moins hier, il y a eu des annonces concrètes.
Alors après ce premier tour de concertation, la CGT, dans un communiqué, dit avoir pris acte avec satisfaction des engagements du Premier ministre. Vous ne nous avez pas habitués à ce genre de satisfaction, surtout avec un Premier ministre de droite.
C'est surtout les premiers ministres qui nous ont pas habitués à de telles annonces. Vous savez, nous, on l'avait dit à notre première rencontre, les paroles c'est bien, mais nous on préfère les actes. Donc hier, il y a eu des annonces de fait, concrètes. Le report...
On va y revenir, le report des grandes réformes...
De deux mesures qui frappent de plein fouet, qui pouvaient frapper de plein fouet les citoyens, et je pense aux privés d'emploi. On prend acte, on n'a pas dit que tout était réglé.
Est-ce que vous avez perçu un changement de méthode avec Jean Castex? Est-ce que c'est vraiment un négociateur hors pair?
En tout cas, il connaît bien les syndicats, il a un passé qui plaide pour lui, entre guillemets. Après, il y a des objectifs, et il n'est pas tout seul. Il y a aussi le président de la République. En tout cas, il sait de quoi il parle, il connaît les syndicats. Et ce que je peux dire, c'est quelqu'un qui est direct, et c'est bien quand on a des choses à se dire de ne pas tourner autour du pot, comme on dit.
On le décrit comme un gaulliste social. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous?
Je me méfie de ces formules, y compris qui datent maintenant. Pour les plus jeunes, gaulliste social, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose.
Mais pour vous, ça vous parle encore?
Nous, ce qui compte, c'est des objectifs, et puis d'atteindre ces objectifs. Nous l'avons dit, la priorité, c'est l'emploi. Et les salaires, c'est ce qu'a révélé à grande échelle la crise du Covid et le confinement, qui n'est pas terminé d'ailleurs. Et donc, le reste, c'est des commentaires et ça nous importe peu.
Alors, entrons dans le vif du sujet, dans le fond, la réforme des retraites d'abord, dont aucun partenaire social ne voulait entendre parler. Les concertations sont donc reportées au moins jusqu'à la fin de l'année. Vous êtes content de ce report?
Oui, parce que nous l'avions dit, cette réforme, le moins qu'on puisse dire, a mobilisé le pays. Il y a eu des grèves l'hiver dernier. Nous l'avons dénoncé, cette réforme, parce qu'elle est injuste.
Mais est-ce que c'est pas un tour de passe-passe, un report pour mieux l'engager dans quelques mois?
Non, mais je vous l'ai dit, c'est un report, et donc il faut rester vigilant. Ce qu'a dit le Premier ministre, et nous, ça nous va bien, c'est qu'on va parler financement de la sécurité sociale, parce que les retraites, c'est une des branches de la sécurité sociale, et donc on va parler la sécurité sociale, la santé. Et donc la question qui reste posée, c'est soit on réduit les budgets, c'est-à-dire on réduit les dépenses, mais quand on parle de santé, je pense
surtout
pas
en ce moment.
Surtout en ce moment, c'est pas les dépenses qu'il faut réduire, c'est les recettes qu'il faut augmenter. Donc on va avoir un débat sur l'ensemble du volet de la sécurité sociale, sur comment ce fameux trou, entre guillemets, soit on arrive à avoir des recettes supplémentaires, soit on continue à creuser les déficits parce qu'il y a un manque de recettes. Et ça, c'est un débat intéressant parce que il faut parler salaire, vous voyez, parce que quand on augmente les salaires, il y a ce que vous touchez à la fin du mois, et puis il y a ce qu'on appelle et qu'on devrait toujours appeler les cotisations sociales qui permettent de financer la santé, la retraite, etc. Donc ça, c'est un vrai débat. Et comme on va fêter à l'automne les 75 ans de la sécurité sociale, eh bien ça vaut le coup d'en parler.
Parce qu'il y a un vrai problème financier quand même. On s'attendait à un déficit du régime des retraites à la fin de l'année de 4 milliards d'euros. Finalement, on sera plus proche des 30 milliards. On a demandé au COR, le Conseil d'orientation des retraites, de faire une évaluation plus précise à la rentrée.
Il y a un problème de financement. Et la crise du Covid l'a accentué. Quand il y a plus de chômeurs, il y a moins de cotisants. Quand il y a plus d'exonération de cotisations pour les employeurs, et notamment pour les grandes entreprises, il y a moins de cotisations. Donc vous voyez, on est au cœur du débat. Le gouvernement aide beaucoup les entreprises. Alors il y a les prêts, etc. Mais il y a aussi des exonérations de cotisations. Et ça, c'est de l'argent en moins pour la protection sociale, pour la sécurité sociale. Donc ce débat, il faut l'avoir à grande échelle et pas essayer d'opposer les Français entre eux, entre ceux qui auraient des régimes dits spéciaux, d'autres moins de régimes, moins de prestations. Donc c'est ça le cœur du sujet. Oui, il faut augmenter les recettes.
Sur l'âge de départ à la retraite, est-ce que vous pouvez bouger ou pas du tout? Il est à 62 ans aujourd'hui.
On peut bouger, il faut revenir à 60 ans.
Ouais,
vous voyez, on fait des propositions. Là, c'est pareil.
Alors qu'aujourd'hui, les Français en moyenne travaillent jusqu'à 63,4 ans, je crois.
Oui. C'est-à-dire qu'au-delà...
Au-delà des 62 ans légaux.
Au-delà de l'âge légal, parce que pourquoi ils travaillent plus longtemps? Parce que s'ils partent à l'âge légal, ils n'ont pas une pension qui leur permet de vivre. Donc, c'est tous ces problèmes. Mais moi je repose une question simple. Et vous savez, moi, j'ai pas fait de grandes études. C'est des questions logiques. si on travaille plus longtemps, c'est-à-dire si ceux qui ont du boulot restent plus longtemps au boulot, comment on va libérer de la place pour les jeunes? C'est un vrai sujet. Or, et le Premier ministre l'a répété, on est d'accord avec lui, la priorité, c'est l'emploi. Donc, on ne peut pas garder plus longtemps des gens au boulot. Il faut qu'ils puissent partir avant et avec de quoi vivre. Donc, il faut traiter la question de l'âge et de la pension, donc des recettes.
Le président et le Premier ministre, Édouard Philippe puis Jean Castex, insistent sur le fait que cette réforme, elle avait, parce qu'on va la mettre au passé maintenant, elle avait quand même des aspects pour soutenir ce qu'on appelle aujourd'hui les premiers de corvée, notamment la pension minimale, les 1000 euros hein, de minimum contributif. Ça aussi, c'est mis de côté pour l'instant. Oui. Pourtant, c'était plutôt une bonne chose.
Moi, j'ai dit au Premier ministre hier, mais je l'avais dit au précédent, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, pour soutenir les premiers de corvée, il faut augmenter les salaires. Le SMIC. Et j'ai demandé au Premier ministre, nous avons demandé au Premier ministre de l'augmenter très rapidement, maintenant, parce qu'eux n'ont rien. On les a applaudis. Hein. Ça, ils ont eu des éloges hein, pendant trois mois. C'est bien, c'est première ligne, deuxième ligne. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Rien. Donc il faut augmenter le SMIC. Et quand on augmente le SMIC, ça augmente aussi les cotisations sociales. Donc c'est bon pour les retraites. Il faut arrêter avec la précarité. Pourquoi il y a des problèmes de pension? Parce qu'il y a des carrières dites hachées. On est précaires, les femmes. Avec le temps partiel
justement,
imposé.
Pour les femmes, il y avait des mesures dans cette réforme, notamment la contribution supplémentaire à la pension de réversion quand une femme perd son mari. Là, on lui garantissait de garder 70% de sa pension, 70% de ce qu'elle touchait avec son mari.
Mais on n'a pas dit que dans cette réforme, tout était à jeter.
Ça, vous voudriez garder.
Et sur la réversion, il faut progresser. Mais on nous présente des petits bouts. Pour cacher, c'est en gros les arbustes qui cachent la forêt de mauvaises choses. Le principe, il est simple, hein, je le répète. Une carrière non hachée, c'est-à-dire pas de temps partiel imposé, des bons salaires, automatiquement, ça fait. Donc il faut plutôt s'occuper de la carrière. Et pour les femmes, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, dont on parle depuis des décennies, ça, des discours, il y en a eu. Mais pour l'instant, il y a toujours des différences de salaire. Eh bien, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et ça a des conséquences sur la retraite. Automatiquement. Vous voyez, faut pas prendre le truc à l'envers.
Parce qu'il y avait quand même également cette mesure pour les agriculteurs. Ça aussi, c'était une bonne mesure.
Il faut s'occuper des agriculteurs aussi. Mais les agriculteurs, leur problème aussi, c'est une question de revenus. C'est justement parce qu'ils n'ont pas de bons revenus pendant qu'ils travaillent que, évidemment, ils ont des retraites misérables, il faut le dire, quand ils ne travaillent plus. Donc là aussi, c'est une question de salaire, de revenus qu'il faut, sur lequel il faut travailler.
Autre victoire hier, a priori pour vous, c'est le report jusqu'au début 2021, l'année prochaine, donc, de la totalité de la réforme de l'assurance chômage. Ça, c'est une grande victoire.
Pas pour nous. Pour les chômeurs, pour les privés d'emploi, et il y en a de plus en plus.
Parce qu'il y a une partie de cette réforme, il faut expliquer, elle est entrée en vigueur novembre dernier.
Elle était déjà entrée en vigueur au 1er novembre de l'année dernière.
Des règles pour durcir
et donc,
l'accès aux droits.
Cette mesure aussi est annulée. Donc, ce que nous avons dit, c'est qu'on remet tout à plat. C'est pour les privés d'emploi, enfin, vous le savez très bien comme moi, c'est vraiment plus qu'une bouffée d'oxygène. Hein, plus qu'une bouffée d'oxygène. C'est des centaines de milliers de privés d'emploi qui vont retrouver... certes, pas des revenus satisfaisants, mais en tout cas, de quoi essayer de survivre. Eh bien oui, c'est important. Et dans la période, avec ces centaines de milliers de chômeurs qu'on annonce supplémentaires...
Oui, il prévoit 900 000 suppressions d'emplois.
Il faudra regarder, parce qu'il faut se battre justement pour empêcher ça. Et on peut en reparler des plans dits sociaux. Mais pour eux, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Et ça aurait été vraiment, pour le Premier ministre qui arrive, à enfoncer la tête sous l'eau de centaines de milliers de privés d'emploi, pour quelqu'un dont vous parlez de gaullisme social, on aurait revu la définition.
Dans cette réforme, il y a aussi le système de bonus-malus contre les CDD utilisés de manière abusive dans les entreprises. Ça, pourtant, c'était une bonne mesure, selon vous ?
Il faut pas le bonus, le malus. Le malus, parce qu'il y a des entreprises, les grandes, on peut parler de certaines entreprises qui abusent et de la précarité. Et le Premier ministre, hier, a évoqué cette question en disant il faut stopper la précarité, limiter. On peut être que d'accord avec lui. Après, c'est quels moyens on se donne. Et donc le malus, c'est-à-dire sanctionner des entreprises qui abusent de l'intérim et de la précarité, oui, c'est très important. Il faudra que ça revienne.
Alors parlons justement du plan de relance que le gouvernement a l'intention de lancer. Dès la semaine prochaine, il y aura des concertations. Vous n'allez pas partir en vacances tout de suite. Et des concertations, a priori, d'abord sur les jeunes. C'est la première priorité. C'est celle qu'on va traiter d'abord.
Oui,
c'est une bonne idée.
Évidemment, il faut assurer un avenir pour ces jeunes qui...
Ce seront les premières victimes à la rentrée.
C'est souvent les premières victimes, mais là, ça va être démultiplié. Il y a besoin de trouver des mesures qui leur permettent de rentrer dans les entreprises, mais aussi d'y rester, si on veut lutter contre la précarité. C'est pour ça que nous avons dit au Premier ministre des incitations, d'accord, des aides, d'accord, mais il faut mesurer les résultats. Parce que bien souvent, les grandes entreprises prennent les aides, gardent des jeunes précaires pendant un an ou deux ans, puis après, c'est la porte. Donc nous... Tous ces contrats d'insertion et toutes ces mesures, y compris pour les apprentis, doivent se traduire par des CDI. C'est la meilleure façon de lutter contre le chômage.
Oui, concrètement, le gouvernement, là, il promet 4000 euros par an à une entreprise qui embauchera un jeune. C'est une bonne idée, ça, ou ça ne fonctionnera pas?
Mais c'est une bonne idée à condition qu'il y ait des engagements derrière de la part de l'entreprise. Parce que sinon, on se met de l'argent dans la poche. On garde un jeune pendant un an ou deux ans, puis après on le remet dehors. On ne traitera pas la question de l'emploi à travers des statistiques. Enfin, je veux dire, les courbes du chômage, c'est important. Mais vous savez aussi bien que moi que la précarité, c'est l'impossibilité de construire sa vie. Vous discutez avec tous ceux qui sont en précarité, ils disent, pour avoir un logement, quand on est précaire, c'est impossible. Pour essayer de partir en vacances, c'est impossible. Vous voyez ? Donc c'est ça qu'il faut changer.
300 000 contrats d'insertion. Certains disent que ces contrats d'insertion, il fallait s'en passer parce que ça fait de la précarité en plus. Ce sont toujours des contrats courts. Vous en pensez quoi de ces contrats d'insertion?
Mais je pense que c'est s'il y a des conditions à la fin de ce contrat d'insertion.
Quelles conditions?
La condition, c'est le CDI. C'est le CDI. J'étais jeudi dernier dans une petite entreprise qui travaille avec l'association ATD Carmonde où il y a des contrats d'insertion mais à la fin de ce contrat d'insertion, c'est le CDI obligatoire. Pourquoi on peut le faire dans une petite entreprise, certes qui est motivée, qui a des choses à dire? Pourquoi on le ferait pas dans les grandes où il y a des milliards et souvent des milliards qui vont chez les actionnaires? Cet argent-là, il ferait mieux de servir à l'emploi.
100 000 services civiques supplémentaires. Le service civique, c'est une réponse au chômage aussi? On dévoie un moyen
Malheureusement, ces modèles, en tout cas ces contrats, ont trop été utilisés, y compris par le passé, à des fins de communication politique. Regardez notre courbe du chômage. Vous savez, le président de la République disait encore il y a peu, au 14 juillet, regardez, la courbe du chômage baissait. Mais vous voyez, quand cet emploi n'est pas stable, eh ben à la première, et là c'est une grosse vague, ben vous voyez, c'est des centaines de milliers de jeunes notamment, mais pas que des jeunes, qui retournent au chômage. Donc la précarité, c'est contre la précarité qu'il faut lutter. Le chômage et la précarité.
Autre annonce du gouvernement ces derniers jours, il va baisser les impôts de production des entreprises de 10 milliards d'euros. C'est le double de ce que le MEDEF demandait. C'est un joli cadeau.
Au MEDEF,
oui.
Bien
oui. Sûr. Et aux entreprises.
Mais les grandes entreprises ont beaucoup de cadeaux, vous l'avez noté. C'est des milliards et des milliards quand on compare aux chômeurs.
C'est trop, selon vous.
Mais c'est l'utilisation et le contrôle de ces fonds. Vous savez, il y a eu des milliards de distribués à l'aéronautique, à l'automobile. Le lendemain, on annonçait des milliers de suppressions d'emplois. C'est à ça qu'il va servir l'argent, c'est-à-dire à payer des entreprises pour licencier. C'est ça qu'il faut inverser. Donc il faut travailler sur des projets et que les entreprises contribuent, parce qu'elles sont pas toutes. Elles sont pas toutes dans la misère, elles sont pas toutes... Enfin, l'année dernière, les actionnaires se sont bien engraissés en France. On est champion du monde des dividendes versés aux actionnaires. Où il est passé cet argent? Pas pour l'emploi, pas pour améliorer les conditions de travail, pas pour les salaires. Donc, il faut que ces aides, elles soient conditionnées à des résultats. Et ça manque un peu de visibilité, de transparence, ces aides.
L'autre axe fort de Jean Castex, c'est de décliner son plan de relance sur les territoires. Comment vous imaginez ça, vous?
Il faut, là aussi, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, nous avons des projets de territoire. Je citerai une usine, une papeterie à côté de Rouen, la Chapelle d'Arblay, qui recycle du papier journal. Vous voyez? C'est industrie, emploi et écologie. Elle est menacée de fermeture parce qu'un grand groupe finlandais dit qu'elle n'est pas assez rentable. Eh bien, voilà un bon exemple. Et j'ai dit au Premier ministre, Vous voyez, c'est bien de parler, mais donnez-nous un bon exemple. C'est possible de la réouvrir tout de suite et de créer des emplois. Faites-le. Et donc, il faut travailler sur les territoires, mais à condition qu'on garde une cohérence nationale. Parce que, par exemple, certains ont des idées de faire des SMIC régionaux. C'est-à-dire que chaque région pourrait...
C'est ça le risque, c'est que chaque région
définisse sa loi.
Sa petite cuisine dans son coin.
Mais les valeurs de la République, et là aussi je vous renvoie à ce que vous disiez, le gaulliste social, l'égalité, c'est une des valeurs de la République. Et qu'on a, quel que soit le département où on habite en France, on doit avoir des droits maximum de la même façon. En matière de services publics, en matière de transport... et en matière de droit social, c'est-à-dire salaire minimum, école, etc. Donc oui à la décentralisation, oui aux projets territoriaux, mais en gardant un socle national pour garder l'égalité des citoyens sur le territoire.
Philippe Martinez, est-ce que c'est possible d'avoir un plan de relance économique pour l'industrie notamment, et que ce plan soit écologique, soit vert ?
Bien sûr.
Quand on donne beaucoup d'argent à l'aéronautique, à l'automobile...
Voilà, commençons par la SNCF par exemple. Vous savez, le précédent gouvernement a essayé de casser le statut de l'entreprise. Nous parlions réouverture des petites lignes fret. Eh bien, si on veut relancer les petites lignes, le fret...
Là, Jean Castex a dit qu'il voulait protéger de nouveau ces petites lignes.
Il a dit beaucoup de choses. Je sais qu'aujourd'hui, il est en déplacement, il va être interpellé par des cheminots, justement sur la fermeture d'une petite ligne. Mais quand on veut réouvrir le fret, il faut construire des wagons pour mettre des marchandises. Des wagons adaptés aux besoins des entreprises, aux besoins des transports. Donc vous défendez et l'environnement, mais vous défendez aussi, vous développez l'industrie, parce qu'on reconstruit une filière industrielle. Vous voyez, ça c'est un projet que porte la CGT. Il faut, plutôt que de licencier chez Renault, il faut se servir des ingénieurs, des chercheurs, pour des véhicules propres, alléger le poids des véhicules, par exemple. J'entendais Isabelle Autissier en parler. Elle a raison.
À 7h50,
elle a raison. Elle a raison. Mais si on supprime des emplois de ceux qui ont en charge de trouver des solutions pour l'avenir, forcément, ça va pas coller. Hein.
Alors, on sent quand même qu'il y a des signes d'encouragement. Mais vous appelez à une journée d'action le 17 septembre. On va finir là-dessus.
Oui, parce que.
Parce qu'il faut rester mobilisé. Même s'il y a des signaux encourageants.
Mais les signaux, ça suffit pas. Vous savez, les signaux, même la fumée, ça suffit pas. Il faut des actes concrets et j'ai essayé de vous démontrer qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et quand la pression baisse, eh bien, chasser le naturel, il revient au galop et les mauvaises idées reviennent.
C'est bien entendu. Merci beaucoup, Philippe Martinez, d'avoir été au micro de France Inter ce matin. Bonne journée à vous.
Bonne journée.